que nous nous approprions ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous apprendre pour nous fortifier durant pour la nouvelle semaine. Et merci encore pour ta parole qui est riche et aide Florent à l'être fidèle. Et merci encore pour cette grâce que nous avons de pouvoir l'écouter librement. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.
Bonjour à tous. On est content d'être de retour parmi vous après un mois passé en Suisse. Enfin, pour être honnête, on est content de retrouver l'église. Peut-être un peu moins content de retrouver le centre-ville de Colombes, mais c'est la Suisse qui nous manque peut-être. Donc je profite d'être devant vous pour vous transmettre les salutations de l'église de Tramelan dans le Jura bernois qu'on a visité, et aussi de Daniel Mola qui est le pasteur référent de l'église. Donc, il a dit de bien vous saluer. Et ce matin, donc, on arrive au troisième et dernier volet de la mini-série Des femmes rencontrent Jésus. Alors, je ne sais pas si vous étiez là il y a deux semaines, mais Jonathan a déjà prêché sur un texte de Luc 7 qui a bien des points communs avec notre texte de ce matin. Mais en fait, ce matin, c'est quand même un événement différent de la vie de Jésus. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible, l'évangile de Jean au chapitre 12. Donc c'est à la page 698 dans les Bibles blanches. Et donc avant de lire le texte, je voulais juste vous rappeler un petit peu ce qui vient de se passer. On est en fait dans un tournant de la vie de Jésus. Jusque-là, il y a eu un peu tout son ministère terrestre. Et là, on arrive gentiment à la période de la Passion. Et donc c'est vraiment un instant crucial de la vie de Jésus. Et au chapitre 11, on a la résurrection de Lazare. Lazare, le frère de Marthe et Marie à Béthanie. Donc c'est un chapitre intense aussi. Et donc ce matin, la prédication va porter juste sur les 8 versets 1 à 8 là, de Jean chapitre 12, mais je vous propose de lire quelques versets avant et quelques versets après, juste pour se remettre un peu dans l'histoire. Alors on va lire depuis 11:53 jusqu'à 12, verset 11. Donc, lisons dans la parole de Dieu à partir de 11:53. Dès ce jour, ils, donc c'est-à-dire les chefs des prêtres et les pharisiens, ils tinrent conseil pour le faire mourir, donc Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et, comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Donc jusqu'ici, la lecture dans la parole de Dieu. Moi, je me pose toujours une question quand je lis les Écritures, c'est pourquoi on a ce récit dans la Bible? Pourquoi est-ce que Jean a choisi d'inclure cet épisode? Parce qu'on lit à la fin de l'évangile, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, Je pense que si cet incident nous est rapporté, c'est parce qu'il est riche en signification pour nous, encore aujourd'hui. Mais avant de réfléchir au sens de ces événements pour nous, je vous propose juste de revivre l'histoire un peu du point de vue des trois personnages principaux. Donc il y a Marie, Judas, Jésus, pour bien comprendre ce qui se passe en fait, avant de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Alors vous avez compris, la scène se passe dans la ville de Béthanie. Béthanie, c'est à 3 km à l'est de Jérusalem. Et dans quelques jours, il y aura lieu une des grandes fêtes annuelles des Juifs, donc la Pâque. Et on voit que Jésus aussi, malgré les menaces de mort qui planent sur lui, Jésus est en route vers Jérusalem. Et en chemin, il s'arrête d'abord à Béthanie, où on lui offre en fait un grand repas. Imaginez peut-être le banquet en son honneur. Et donc à ce repas, à Béthanie, on retrouve Jésus et ses disciples. Même si le texte mentionne que Judas, je pense qu'il y avait les autres disciples également. Et on trouve aussi Marthe, Marie et Lazare, des personnes que Jésus aimait, comme on l'apprend au chapitre d'avant. Alors ça, c'est un peu la toile de fond du récit. Et qu'est-ce qui se passe alors durant ce fameux repas à Béthanie? Donc si je devais résumer, il y a trois étapes en gros. Il y a Marie qui pose un geste bizarre. Elle lave les pieds de Jésus avec du parfum. Ensuite, on voit Judas qui la critique ouvertement. En gros, il dit « Mais quel gaspillage, tout ce parfum perdu !» Et enfin, on voit Jésus qui prend la défense de Marie et qui nous explique la raison profonde de son geste. Alors maintenant, je vous propose de revenir quelques instants sur ces trois étapes pour bien comprendre le sens de ce récit. Tout commence donc avec Marie. Marie qui vit à Béthanie avec sa sœur Marthe, son frère Lazare. Alors c'est sûrement pas la première fois qu'elle rencontre Jésus. Peut-être vous vous souvenez de deux épisodes qu'on trouve dans l'évangile. Par exemple dans Luc 10, il y a ce contraste entre les deux sœurs. Alors il y a Marie qui est assise au pied de Jésus, qui écoute son enseignement avec attention. Et puis de l'autre il y a Marthe qui est un peu hyperactive, qui s'affaire aux tâches du service. Donc on voit un peu hein, les différences de personnalité entre les deux. Mais il y a aussi ce chapitre 11 de l'évangile de Jean, où on se rend compte qu'en fait, toute cette famille vient de passer par le deuil. Si je résume le chapitre, en fait, Lazare tombe gravement malade. Alors les sœurs envoient une sorte de message de détresse à Jésus. Mais quand Jésus arrive à Béthanie, c'est déjà trop tard. Lazare est déjà mort et enterré. Donc on comprend que Marie, elle a vu son frère souffrir, elle a vu son frère mourir. Elle l'a mis au tombeau, elle l'a pleuré aussi plusieurs jours. Jusqu'à ce que Jésus accomplisse un miracle spectaculaire. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et donc pour Marie, la joie a remplacé la tristesse. Les retrouvailles ont effacé la séparation. Avec beaucoup de juifs, elle a été le témoin oculaire de cette résurrection prodigieuse de Jésus. Tout ça pour se rappeler un peu donc qui est cette Marie qui a déjà vécu des choses fortes avec Jésus. Et donc c'est cette Marie qui s'approche maintenant de la table où Jésus se trouve avec les invités. Et à l'époque, Jonathan l'a probablement déjà dit, mais on mangeait un peu allongé sur le côté, donc sur des sortes de divans, avec la tête du côté de la table, les pieds à l'opposé. Et toujours à l'époque, on se promenait plutôt en sandales, avec les pieds nus dans les sandales, et ça devenait vite poussiéreux sur les chemins de Palestine. Alors c'est pourquoi un geste d'hospitalité courante à l'époque, c'était de laver les pieds de ses hôtes. Dans la culture orientale, ou en tout cas au 1er siècle, le geste de Marie, il a donc quelque chose de normal. Alors évidemment, dans notre France du 21e siècle, plus personne n'imaginerait faire ça. Mais à l'époque, il y avait quelque chose de normal, et pourtant, il y a aussi quelque chose qui rend ce geste vraiment bizarre, quand on y réfléchit un peu. C'est vrai que d'abord, le fait de laver les pieds, c'était plutôt une tâche qui était réservée à un esclave, et même à un esclave de rang inférieur. Mais on sait que Marie, elle était un individu libre. Elle venait probablement même d'une famille plutôt aisée. Ensuite, d'habitude, on lavait plutôt les pieds à l'eau. On n'utilisait pas tellement du parfum genre Chanel 5. Alors pourquoi Marie, elle va sacrifier là? Alors c'est l'équivalent actuel peut-être de, on va dire, 15 000 euros pour arrondir. Elle gaspille un parfum d'une valeur de 15 000 euros pour faire ça. Et enfin, normalement, on essuie plutôt les pieds avec un linge, pas avec ses propres cheveux. En plus, il y avait probablement quelque chose d'inconvenant à l'époque qu'une femme ait les cheveux détachés en public pour les essuyer. Ça fait beaucoup de raisons qui rendent ce geste vraiment étrange, voire extravagant, même si c'était un geste d'hospitalité courant à l'époque. Alors comment comprendre cet acte de service extravagant de Marie vis-à-vis de Jésus? Et apparemment, Marie, elle agit en silence. Elle n'explique pas tellement sa motivation ou son objectif. Est-ce qu'on doit y voir une marque d'humilité puisqu'elle s'abaisse à laver les pieds de Jésus? Elle prend le rang d'un esclave. Est-ce qu'on doit y voir une preuve de consécration puisqu'elle offre tout ce qu'elle possède, tout ce qu'elle est? Alors pour l'instant, le texte, il nous laisse un peu avec ces questions et on va y revenir tout à l'heure. Mais on arrive à Judas. Alors Judas, il réagit un peu comme un bon français. Excusez-moi, je suis double national, donc je peux me permettre. Donc il critique ouvertement Marie. Donc Judas, c'est l'un des 12. C'était un disciple privilégié de Jésus qui le suivait depuis des années. On comprend que c'est aussi un peu le trésorier du groupe. C'est lui qui porte la bourse commune avec l'argent de la communauté. Et ce Judas, donc, dans un bel élan d'altruisme, il exprime sa préoccupation des pauvres. Magnifique. Ce parfum versé sur Jésus, quel gaspillage! On aurait pu faire tellement mieux avec. Hein, imaginez un peu tout le bien qu'on pourrait faire aux pauvres avec 15 000 euros. Sauf que Jean, qui est aussi un des disciples de Jésus, hein, qui a probablement vu la scène, nous dit ce qui se cache derrière ces belles paroles de Judas. Et on comprend que même si ce parfum avait été vendu, l'argent ne serait jamais parvenu jusqu'aux pauvres. En fait, Judas se serait servi dans la bourse. Il aurait employé cet argent pour lui-même. Et on voit qu'en réalité, Judas, c'est qu'un voleur. Il est dévoré par la cupidité, l'amour de l'argent. C'est ça qui l'anime au fond de son cœur. Et un peu plus tard, on sait que c'est ce Judas qui va trahir Jésus pour le dixième de cette somme. Là, on parle de 300 pièces d'argent et Judas a livré Jésus pour 30 pièces d'argent, soit l'équivalent d'environ 1500 euros. Alors j'ai cherché une illustration et j'aime bien essayer de transposer un peu dans notre situation actuelle. Alors, c'est purement fictif, hein, vous ne croyez pas qu'il y a un fond de vérité là derrière, mais imaginez qu'à la dernière assemblée générale, le trésorier dise, en faisant le bilan un peu des dépenses, mais quand même 15 000 euros pour la déco de la fête de Noël, ça fait un peu beaucoup, hein. Je suis quand même choqué. Quand je pense à tous ces Africains qui n'ont rien à manger, ça me révolte. Et eux alors? Alors ce trésorier propose d'affecter le même montant pour un projet d'aide humanitaire, d'aide alimentaire, ok? Et là le reste de l'Assemblée se dit, mais ça c'est une bonne idée quand même. Hein. C'est un meilleur investissement d'envoyer cet argent pour les pauvres qui ont faim. Et alors le trésorier part en Afrique pour apporter aux frères et sœurs ce don de l'Église. Sauf qu'en fait, avec les 15 000 euros, il l'utilise pour se payer un voyage de rêve, tout frais payé. Donc une fois qu'on a enlevé l'avion première classe, l'hôtel 5 étoiles, le restaurant, il reste juste de quoi acheter 3 sacs de riz. Et voilà où est passé l'argent destiné aux pauvres. Donc là, on comprend hein, par cette illustration vraiment hypothétique, hein, mais on voit cet exemple d'altruisme hypocrite de Judas. Derrière des belles paroles qui sont très pieuses en apparence, on tient plus en fait aux richesses qu'aux pauvres et plus aux richesses qu'à Jésus en fait. Et on voit ce contraste alors que Marie sacrifie son parfum pour Jésus. En fait, Judas, lui, il est prêt à sacrifier Jésus pour lui-même. Sa vie entière est devenue un mensonge. Et petit à petit, on voit l'influence du diable qui grandit sur sa vie. C'est terrible de constater ça. On y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, on a vu Marie, on a vu Judas et on arrive maintenant à Jésus parce qu'après tout, c'est lui le personnage principal de l'évangile. Et je pense, en lisant tout l'évangile de Jean, que Jésus, lui, voyait clair dans le jeu de Judas. Ça n'a pas été une surprise pour lui. On lit au chapitre 2, verset 24. Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. On voit aussi que Jésus seul sait d'avance que Judas va le livrer, qu'il va le trahir. Il savait certainement même que Judas était un voleur et qu'il se servait de temps en temps dans la bourse commune. Et pourtant, Jésus, à ce moment-là, il ne dénonce pas l'hypocrisie de son disciple. Il aurait pu dire « c'est bien joli ce que tu racontes, mais on sait bien ce qui est au fond de ton cœur. » Mais Jésus prend nettement la défense de Marie contre cette agression verbale de Judas. Mettez-vous un peu dans la peau de Marie qui entend ça, c'est fait un peu casser. Et on comprend que Jésus approuve en fait le geste de Marie quand il dit « laisse-la ». En gros, elle a bien agi. Et on arrive ici à la clé du récit, si on veut bien comprendre. Quand Jésus dit « elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement ». Jésus sait qu'il va bientôt mourir. Et il interprète donc le geste de Marie en fonction de ça. Alors avant sa crucifixion, on ne sait pas tellement si Marie ou si d'autres personnes avaient compris que Jésus devait mourir sur la croix. Et probablement qu'en parfumant les pieds de Jésus, Marie, elle ne comprenait pas tout ce que ça voulait dire. C'est un petit peu comme le grand prêtre Caïphe, là, qu'on a lu au début du passage. Il ne comprenait pas non plus tout ce qu'il disait à propos de Jésus, en prophétisant. Donc il y a quelque chose qui dépasse en fait l'intention de Marie, je pense. Et on arrive au cœur du récit qui contient en fait un grand paradoxe quand on y réfléchit. Imaginez autour de cette table, il y a Lazare, celui qui a été mort, qui est de nouveau vivant. Et de l'autre côté, il y a Jésus qui est encore bien en vie pour l'instant, mais qui sait qu'il va mourir dans les prochains jours. Et on sait que ce parfum de nard, il était aussi utilisé pour l'embaumement. Alors il y a des gens qui l'utilisaient pour se parfumer et d'autres pour la sépulture aussi, à l'époque. Et on comprend que sans le savoir, probablement, Marie, elle a déjà annoncé en fait la mort de Jésus. Elle l'a déjà préparé pour le tombeau. Et le paradoxe du récit, c'est que Jésus, qui a dit qu'il était la vie, Jésus qui a rendu la vie à Lazare, Jésus doit mourir. Le cœur du récit, ce n'est pas ce service extravagant de Marie, ce n'est pas cet altruisme hypocrite de Judas, mais c'est bel et bien la mort imminente de Jésus qui vit ses derniers jours. Jésus va mourir, alors ce n'est pas vraiment un scoop. Les chefs juifs veulent sa peau. Et Jésus a déjà évité la mort à plusieurs reprises. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette fois-ci il n'échapperait pas encore ? Et encore une fois, en lisant tout l'évangile de Jean, on constate que Jésus maîtrise l'heure de sa mort, en fait. Tant que son heure n'est pas venue, Jésus échappe à ses adversaires. Il trouve une manière de disparaître. Mais maintenant que son heure est venue, Jésus monte délibérément à Jérusalem, où il se laisse prendre. Il sait d'avance que Judas va le trahir, mais il ne l'en empêche pas. C'est comme si Jésus s'offre à la mort. Alors on sait maintenant quand Jésus doit mourir, mais pourquoi doit-il mourir au juste? Et avant d'en arriver à des applications concrètes pour nous aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps d'y réfléchir un peu. Et en bref, si Jésus doit mourir, c'est parce que c'est le seul moyen de remplir sa mission. La seule manière dont Jésus-Christ pourra donner la vie, elle passe par sa propre mort. Et on tombe de nouveau sur un paradoxe, parce que c'est en mourant que Jésus donne la vie. C'est en mourant lui-même que Jésus donne la vie aux autres. Alors il y aurait énormément de choses à dire sur la signification de la mort de Jésus-Christ. C'est peut-être l'événement le plus significatif de toute l'histoire. Mais ce matin, on va se contenter d'un seul aspect que le texte évoque en passant. Et cet aspect, c'est l'accomplissement de la fête de la Pâque juive. Nous sommes 6 jours avant la Pâque, on voit au verset 1. Et si la crucifixion de Jésus aura lieu pendant cette fête de Pâque, c'est pas tellement une coïncidence. Au contraire, c'est plutôt l'heure de l'accomplissement du symbolisme de cette fête des Juifs. Alors pour bien comprendre, je vous propose de revenir quelques siècles en arrière, alors que le peuple d'Israël était encore en Égypte. Moi, j'ai pas vu le film Exodus, il faudrait que je le fasse une fois. Mais rappelez-vous que voilà, les Israélites sont esclaves du pays d'Égypte, sous la coupe de Pharaon. Et Dieu envoie Moïse auprès du Pharaon pour laisser partir son peuple. Et le Pharaon, évidemment, ne veut pas. Alors Dieu envoie sur l'Égypte les fameuses 10 plaies, 10 fléaux terribles. Et c'est juste avant la 10e plaie, la plus terrible de toutes, que Dieu institue la fête de Pâques. On trouve ça dans Exode chapitre 12. Alors la Pâque, c'est quoi ? C'est Dieu qui ordonne à chaque famille de prendre un agneau sans défaut. Et cet agneau doit être mis à mort, on doit prendre de son sang, on doit le mettre sur le cadre de la porte d'entrée de la maison. Et ainsi, tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison sont sous la protection du sang versé. Et je voulais juste un verset dans Exode 12 qui résume bien. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et lorsque la 10e plaie s'abat, alors ça a dû être une nuit terrible, mais tous les premiers-nés des Égyptiens meurent la même nuit. Mais tous les Israélites qui ont sacrifié cet agneau, ont la vie sauve et sont libérés. Donc la signification profonde de la fête juive de la Pâque, c'est en fait une question de vie et de mort. On comprend qu'il y a une substitution, il y a un échange entre l'agneau et les Israélites. Il y en a un qui meurt pour que les autres puissent vivre. Les Égyptiens qui ne sont pas au bénéfice du sang de l'agneau, eux, trouvent la mort. Mais dans le fond, il n'y a pas tellement de différence entre des Israélites et des Égyptiens. Ce n'est pas une question de nationalité ou d'ethnie. Tous méritent la mort. Devant Dieu, nous méritons tous de mourir aussi à cause de nos péchés, à cause de nos fautes contre lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu fournit un bouc émissaire. Dieu envoie un sauveur pour délivrer son peuple. Et ce sauveur, on comprend que c'est Jésus, lui qui accomplit la fête de la Pâque. Jean-Baptiste dira à propos de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'accomplissement, c'est que Jésus, il est l'agneau de Pâques par excellence. Il est celui dont le sang apporte la vie aux hommes. Alors voilà pourquoi il faut qu'il meure, qu'il soit sacrifié, que son sang soit versé à la croix. Pourquoi ? Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Voilà le fin mot de l'histoire. Jésus doit mourir pour donner la vie aux hommes. Jésus est mort pour pouvoir nous donner la vie, c'est le seul moyen possible. Et parce qu'il a versé son sang à la croix, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Parce qu'il est mort à notre place, nous pouvons obtenir de Dieu la vie éternelle. Donc après avoir considéré le récit et sa signification, je voudrais terminer maintenant par quelques applications. En se demandant qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce récit à nous, nous qui sommes des Occidentaux, au XXIe siècle. Et je vous propose de revenir donc à nos 3 personnages principaux pour essayer d'en tirer 3 leçons. Alors premièrement, et c'est la leçon la plus importante, il nous faut encore expliquer comment s'approprier la mort de Jésus à la croix, comment en bénéficier. En effet, tous les êtres humains ne sont pas automatiquement sauvés par ce sacrifice. C'est comme lors de la première Pâque en Égypte, il y a une démarche personnelle à accomplir. À cette époque, les Israélites, eux, ils devaient rester dans la maison qui était protégée par le sang sur la porte. Et de nos jours aussi, il y a une seule façon d'être au bénéfice du sang de l'agneau. Et on le trouve à la fin de l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 30 et 31, que je vous lis. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On comprend que c'est par la foi. C'est en croyant que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, que l'on a la vie. Chacun, chacune doit s'approprier par la foi l'œuvre de Jésus à la croix pour lui, pour elle. Et on voit que si nous plaçons notre confiance en Jésus, il y a aussi une substitution, il y a aussi un double échange en fait. La mort que nous méritons, c'est celle que Jésus a subie. Nous n'avons plus à mourir. Et la vie que Jésus a rendue possible, elle devient la nôtre. Nous possédons la vie éternelle. Et la Bible, la parole de Dieu nous assure, selon les paroles mêmes de Jésus, au chapitre précédent, Jésus qui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Alors avoir la vie éternelle, ça ne veut pas dire ne jamais expérimenter la mort physique, la mort du corps. Ça veut plutôt dire ne jamais être séparé de Dieu, toujours vivre en sa présence. On lit dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On comprend que Marie a répandu son parfum sur Jésus, un parfum précieux, mais Jésus, lui, a versé son propre sang pour nous. On peut se demander à combien est-ce qu'on estime la valeur de ce sang de Jésus qu'il a versé à la croix, à sa mort. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, c'est le prix infini de notre vie éternelle. Et ce prix a déjà été pleinement payé. Ce sacrifice a déjà été accompli une fois pour toutes. Je vous invite à méditer sur ces vérités en priant que Dieu vous les révèle toujours plus. Et je m'inclus aussi dedans. Se dire que Jésus est mort volontairement pour moi, afin que par la foi, je puisse recevoir la vie éternelle. Alors ça, c'est la première application. Et si vous devez retenir qu'une chose, j'espère que le message au moins sera assez clair. Mais deuxièmement, je crois que si on réfléchit à Judas, il y a aussi quelque chose qui doit nous interpeller dans son hypocrisie. Réfléchissez un peu combien de temps Judas a-t-il semblé être un disciple comme les autres. Combien d'années a-t-il suivi Jésus le Maître partout, en écoutant son enseignement? Tout ce temps, est-ce qu'il n'a pas été lui-même engagé dans le service, un peu comme les autres apôtres? Et pourtant, derrière ces belles paroles, on voit une vie de mensonge. On décerne un cœur cupide, un cœur idolâtre. Et lorsque l'occasion se présente d'échanger Jésus contre 30 pièces d'argent, Judas la saisit. Et à cet instant, il devient évident que c'est l'argent, c'est pas Jésus qui occupe la première place de son cœur. Ça fait penser à cette parole du serment sur la montagne. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et face à la chute de Judas, la chute terrible, Dieu nous invite à être attentifs à cette mise en garde solennelle. Et j'ai pensé à deux versets dans l'épître 1 Timothée, chapitre 6, et versets 10 et 11, qui nous dit « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes à eux-mêmes bien des tourments. » Ça décrit un peu ce qui est arrivé à Judas, non? Alors ce qui est vrai pour l'argent, c'est aussi vrai pour d'autres choses et même d'autres bonnes choses. Que ce soit l'argent, le sexe, le pouvoir, la famille, le travail, les relations, on pourrait continuer la liste, Il y a beaucoup d'autres idoles potentielles qui peuvent prendre la place de Jésus dans notre cœur. Et c'est triste à dire, mais c'est possible d'être, plutôt d'avoir l'air d'être chrétien, de fréquenter l'église pendant des années. C'est possible, comme Judas, de prononcer des belles prières, même d'avoir une bonne confession de foi, C'est encore possible d'être engagé dans le service chrétien, voire d'occuper des responsabilités. Mais le drame, c'est que tout ceci peut n'être qu'une façade, un masque qui cache ce qu'il y a véritablement au fond de cœur. Alors bien sûr, il y a Jésus seul qui connaît les cœurs. Hein. Jésus seul connaît votre cœur, il voit si votre foi est sincère ou non, il voit si la mienne est sincère ou non. Et donc l'application, elle est assez évidente, c'est que chacun s'examine lui-même devant Dieu et regarde ce qu'il y a au fond de son cœur. Est-ce que nous sommes attachés à Jésus comme Marie, ou plutôt aux richesses comme Judas, ou à d'autres choses que j'ai mentionnées dans la liste? Alors cette mise en garde, bien sûr, on sait qu'on reste pécheur, on sait que même quand on est sincère dans notre foi, on chute parfois. Dieu a encore une œuvre à faire dans notre vie pour purifier notre cœur, pour toujours ramener Jésus à la première place. Hein, c'est pas pour vous faire culpabiliser pour ça, mais c'est vraiment pour qu'on s'interroge quand même sur l'authenticité de notre foi. Voilà pour Jésus, pour Judas, et enfin, troisièmement, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer un peu de l'exemple extravagant de Marie? Est-ce qu'il faut se dire, finalement, rien n'est trop beau ou trop cher pour Jésus? Donc c'est simple, hein, vendez vos voitures, vos téléviseurs, et puis apportez ça à l'église pour qu'on puisse redécorer un peu l'intérieur, qu'on puisse mettre du marbre par terre, qu'on puisse mettre de l'or sur les murs. Est-ce que c'est ça? Bien sûr que non. Il y a quelque chose d'unique, il y a quelque chose de particulier dans ce geste de Marie. Alors d'abord, Jésus n'est plus présent en chair et en os parmi nous. On ne peut pas prendre soin de son corps comme Marie l'a fait de la même manière. Jésus est ressuscité, il est auprès du Père. Mais ensuite, ce geste, il est aussi lié à un événement précis, à la mort et à l'enterrement de Jésus qui est arrivé une fois pour toutes. Alors il faut faire attention, hein, pas généraliser trop vite à partir d'un acte dans un récit de la Bible. Mais par contre, si Jésus n'est plus physiquement parmi nous, nous avons toujours les pauvres. Et nous pouvons leur faire du bien quand nous le voulons. C'est ce que Jésus dit dans un passage parallèle. Et il y a toute une réflexion chrétienne, je pense, à mener sur l'action sociale et humanitaire. Et on est en train d'y réfléchir un peu aussi en tant qu'Église. Se demander, mais si on a toujours les pauvres avec nous, mais comment est-ce qu'on pourrait leur faire du bien? Comment est-ce qu'on pourrait les aider réellement? Est-ce qu'il devrait s'agir plutôt d'initiatives personnelles ou de projets de l'église locale? Et puis aussi, quels pauvres devrions-nous aider en priorité? Parce qu'il y a tellement de pauvreté dans le monde, on ne peut pas tout faire. Est-ce qu'il faut favoriser les croyants ou plutôt les incroyants? Est-ce qu'il faut s'occuper des gens qui habitent le même quartier ou ceux qui sont à l'autre bout du monde? Il y a beaucoup de questions, hein, à se poser. Je ne vous donne pas les réponses, je n'ai pas le temps ce matin, je n'ai pas non plus les connaissances, je pense, sur ce sujet. Mais si ça vous intéresse, je voulais juste mentionner un article intéressant qu'il y a dans la Revue Réformée 262 de Charles Nicolas qui s'intitule « Qui est mon prochain ? Action sociale et amour fraternel ?» et qui fait réfléchir. Alors, on ne peut plus servir Jésus comme Marie à l'époque. On a encore les pauvres parmi nous. Comme l'a écrit Paul, hein, dans les Galates. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Voilà pour trois applications concrètes, pratiques. Et en conclusion, je voudrais encore rappeler donc la signification profonde de cet incident à Béthanie. Jésus est mort pour nous donner la vie. Est-ce que nous nous sommes appropriés cela par la foi? Est-ce que cette vérité nous remplit de reconnaissance pour Dieu? Est-ce qu'elle nous remplit de zèle aussi pour son service? Combien estimons-nous le sacrifice de Jésus-Christ? Est-ce que c'est 1500 euros, 15 000 euros, davantage? Et si Jésus a payé un prix infini pour nous, alors quelle place est-ce qu'il occupe dans notre cœur aujourd'hui? Ma prière pour moi, pour vous, pour toute l'Église, c'est que Dieu nous fasse la grâce de comprendre toutes ces choses et aussi de les aider, nous aider à les vivre toujours mieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Merci Florent. Alors ce même Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, il a promis d'être là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et d'être un ami fidèle pour nous. Et c'est un chant que nous allons chanter, c'est avec cette promesse que nous allons clôturer ce culte. La promesse d'avoir un ami fidèle et tendre en Jésus-Christ. Alors je vous invite une dernière fois à vous lever pour chanter le chant de l'ami fidèle.